Ah oui, mais atypique, ça veut dire supérieur. Tu te la pètes, c'est ça?
Bah lui, c'est le premier de la classe.
Je m'ennuie tellement.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis Carves et merci d'être au micro de ce podcast. On a entendu avant le générique quelques phrases, on va en parler juste après. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Oui, Jean-Louis Carves, donc jeune retraité après une longue carrière chez IBM France.
Et alors, qu'est-ce que tu faisais avant chez IBM? Je sais plein de choses.
Oui, j'ai fait carrière avec des rôles assez différents et variés, mais mon dernier poste, c'est effectivement responsable de la diversité et de l'inclusion.
Le thème des atypiques du cerveau te parle totalement.
Totalement, dans toutes ses acceptions, aussi bien au niveau personnel que professionnel.
Alors justement, tu dis niveau personnel, toi, en quoi tu te considères ou pas d'ailleurs un atypique du cerveau?
En fait, je me suis depuis très jeune considéré comme différent, ou on m'a considéré comme différent. Je ne sais pas si l'un est la conséquence de l'autre ou l'inverse. J'ai toujours su que j'étais un peu différent. Peut-être par mes facultés intellectuelles, que je trouvais différentes, pas forcément supérieures. Et puis aussi par mon relationnel, mes comportements sociaux qui étaient un peu différent des autres. J'ai peut-être un petit peu de mal avec ce qu'on appelle le small talk. Hein. C'est des choses qui n'étaient pas très, très familières ni confortables. Et puis par contre, quand il s'agissait d'aller me nourrir en attaquant divers domaines, ben, j'étais en mode curiosité extrême et apprentissage continu et je n'arrête pas.
Tu n'arrêtes pas, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui te nourrit de ce que j'entends et c'est pour ça que tu avais...
C'est un besoin, c'est pas...
Un besoin.
Ma curiosité extrême me fait avoir un besoin, mais quasiment boulimique, d'aller me renseigner sur des tas de domaines qui me passionnent ou que je découvre et que j'ai besoin d'explorer pour me nourrir.
Et alors justement, par rapport à te nourrir, on entendait au tout début, dans les quelques phrases, le côté atypique, ça veut dire supérieur, ou le côté premier de la classe, ou s'ennuyer. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as particulièrement vécues? Tu nous parlais de différence, peut-être de décalage. Comment tu l'interprètes?
Ah mais je ne l'interprète pas. Pour moi, c'est du vécu. Le plus difficile, c'était de l'assumer tant que je n'ai pas eu, je dirais, la révélation par des personnes de mon entourage, ils m'ont dit « mais tu ne penses pas que tu pourrais ?» Et longtemps, ça a été le déni, jusqu'au jour où j'ai eu, j'appelle gentiment la révélation de mon atypicité, et où là, depuis, je l'assume complètement et je le vis beaucoup mieux. Cette façon de vivre toujours un petit peu en décalé, en ayant un personnage, ce qu'on appelle entre nous un faux self, un personnage pour l'entourage, il y a différents milieux sociaux dans lesquels j'intervenais, par rapport à ce que j'étais à l'intérieur, ce décalage a provoqué des situations de malaise, et depuis que je sais pourquoi, ça va beaucoup mieux.
Tu nous dis que tu as longtemps été dans le déni, et que c'est ton entourage qui t'a poussé, alors est-ce que ça veut dire que tu as eu... Une révélation, comme tu dis, tardive? Est-ce que ton entourage t'a aidé à mieux le vivre? Comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait, c'est une révélation tardive. Bon, à la suite de démarches d'introspection, peut-être un petit peu forcées après un burn-out, qui m'ont conduit à avoir cette révélation et le fait de plus vivre dans cette opposition interne entre qui j'étais et qui il fallait que je sois dans les différents milieux où j'intervenais. Alors, un exemple, quand j'étais plus jeune, c'était le fait d'avoir développé une technique du bout en train en société. C'était une façon d'exister, une façon de montrer un petit peu que j'étais un peu comme les autres et forcer un petit peu ce talent, avec des fois un petit peu de travail même. Mais en fait, c'était l'occasion d'attirer peut-être les relations vers moi, alors que naturellement, aller vers les autres ou choses comme ça, me sentant différent, provoquer un certain malaise, un malaise. C'est le mot que qui me vient le plus naturellement à l'esprit.
D'accord. Et tu nous as parlé juste avant de burn-out. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé ce moment-là? Est-ce que ta révélation, de ce que je comprends, elle a eu lieu après ça? Est-ce que ça aussi...
C'est ne pas retomber, de comprendre ce qui m'était arrivé, parce qu'en fait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. j'ai pas compris cet épuisement dans lequel je m'étais enfermé, et puis de continuer à être dans ces comportements qu'on trouve d'hyper-perfectionnisme, tout ce qu'on trouve dans les cas de burn-out. Hein.
Oui.
Et ça, je m'y suis enfoncé de façon assez insidieuse, et une fois que j'étais au fond, il n'y avait plus de sortie par le haut. Quoi. Donc là, c'était le burn-out, c'était la solution pour ensemble. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux éviter ? Et donc, l'accompagnement m'a permis aussi de comprendre pourquoi j'avais été dans cette démarche et comment je pouvais en sortir.
Justement, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on parle souvent du rapport différent des atypiques avec le travail, qui a notamment en tendance un peu plus de cas potentiellement de burn-out, dû à ce décalage ou cette incompréhension, cette différence, on l'appellera comme on voudra. Est-ce que toi, en tout cas, de savoir que tu étais atypique, ça a changé ton rapport au travail ?
Mais complètement. J'y mettais plus du tout le même poids. Et m'assumer tel que j'étais, en fait, avait pour conséquence de considérer le travail d'une autre façon. Bon, j'ai pas perdu pour autant mes travers de perfectionniste, de choses comme ça. Mais du coup, je le considérais autrement et j'accordais à mon bien-être psychologique plus d'importance qu'au fait que mon travail soit bien fait et hyper bien fait et à l'heure, etc. quoi. Et à considérer aussi les exigences d'un certain nombre de personnes de façon beaucoup plus raisonnée.
D'accord.
Ça aussi, c'est important. C'est que la façon dont on manage aussi des personnels atypiques, ça doit, avec cette tendance à vouloir des personnes qui sont en général très engagées, qui ne comptent pas leurs heures, qui, à un moment, ça doit être pour un manager un signal que, attention, cette personne de ce temps-là, si je la laisse trop aller dans ce sens-là, j'ai des chances qu'elle me grille entre les mains, quoi.
C'est vrai que dans une autre interview, on parlait de cette notion de manager ou d'être managé avec quelqu'un qui est atypique. Et du coup, c'était pas forcément évident. Et puis, ça nécessite aussi certaines vigilances. Ça me permet aussi d'enchaîner sur ton entreprise, alors que tu viens de quitter, parce que tu es nouvellement retraité, comme tu nous le disais.
Absolument.
Je sais qu'il y a plein de choses qui sont faites, qui ont été faites sur tous ces sujets-là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager quelques exemples concrets ?
Oui, tout à fait. Je dirais que l'initiative a été prise il y a maintenant, je dirais, 7 ou 8 ans. Je crois que c'était en 2003, 2004, de mémoire, où on a commencé à faire des choses assez intéressantes. Tout d'abord sur l'autisme, et puis l'autisme a fait qu'on a travaillé avec des entreprises un peu spécialisées sur le sujet et qui maintenant ont des accords au niveau, on a des accords, IBM a des accords.
Tu es encore dedans mentalement.
Voilà, je suis encore dedans, ça fait moins d'un mois que je suis sorti, donc là, c'est forcément.
C'est récent.
Je n'ai pas encore sorti. Quoi. Donc, par exemple, une entreprise comme Spécialistaire, moi en local, ça fait maintenant... 5 ou 6 ans, je travaillais avec Auticonsult, donc qui emploie effectivement des consultants autistes Asperger. Donc c'est un sujet qui m'intéressait forcément, avec qui on a développé des partenariats. Sur Spécialistaire, on développe des procédures de recrutement spécialisées et d'accompagnement à l'intégration aussi des personnes autistes dans l'entreprise. Comme Auticonsult le fait quand ils envoient un consultant chez un client. Ils vont d'abord, je dirais, donner un petit peu d'éducation et d'information sur ce que n'est pas l'autisme ou comment accueillir une personne autiste dans l'environnement.
Oui, il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus.
Il y a un déficit énorme d'informations sur le sujet, des tas de clichés qui circulent, de préjugés. Et quand on vient comme ça juste... aller casser un petit peu tout ça et dire en fait c'est une personne un peu différente et de l'accepter dans sa différence, ça participe de la même démarche que n'importe quelle différence dans l'entreprise. Simplement là, on a des clichés, des stéréotypes à déconstruire. Et ben du coup, ça peut se passer très 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 bien.
Et alors tu nous parles de l'exemple des personnes avec autisme. Je sais que IBM en effet a fait beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit en France d'ailleurs ou dans d'autres pays. Est-ce que, au-delà de ces, entre guillemets, profils-là, il y a des choses qui ont été élargies à la diversité cognitive dans son ensemble, ou il y a vraiment cet axe-là qui a été volontarisé ?
Ouais, non, non. Depuis le je dirais il y a une initiative globale sur la neurodiversité qui a été lancée il y a 4 ou 5 ans et qui maintenant couvre, je dirais, tous les domaines ou une grosse partie des domaines de la neurodiversité, puisque là en plus on peut pas vraiment se permettre d'être excluant.
Oui.
Donc, ça va, je dirais, du HPI à l'autiste au TDAH, en allant même jusqu'au syndrome Gilles de la Tourette que certains refusent d'inclure dans la neurodiversité. Mais bon, ça peut arriver à pas mal de monde, à pas mal d'employés, mais aussi de parents, d'amis, d'enfants, des employés. Et en parler, c'est contribuer aussi à faire mieux connaître, je dirais, les spécificités des personnes qui vivent avec ces différences.
Oui, c'est ça. Et je pense que dans ce que tu dis, ce qui est intéressant aussi, c'est de finalement être dans une inclusion totale et de ne pas se poser la question de qu'est-ce qui relève du trouble, qu'est-ce qui pourrait relever de ce qu'on considère comme une maladie, qu'est-ce qui pourrait relever finalement de ni l'un ni l'autre, et de voir tout ça dans le scope de la neurodiversité au sens
Mais
global,
complètement.
quoi.
Complètement. C'est qu'est-ce qui vient? Alors, quand on parle de trouble, est-ce que le trouble, il vient de la personne? Ou de l'environnement qui n'est pas assez accueillant ou inclusif. Voilà. Donc, qu'est-ce qui cause le trouble? La personne peut ne pas se considérer, et souvent ne se considère pas comme anormale ou handicapée, encore pire, mais juste, elle demande à avoir un environnement qui soit suffisamment accueillant, et surtout pas tolérant, mais accueillant et inclusif, quoi.
Ce qui devrait finalement
C'est
être la
vraiment la
norme
vie de
pour bien être au travail et être efficace, quoi.
exactement. Et puis, c'est vraiment l'attention à l'autre, le care, hein, c'est ce qu'on voit de plus en plus se développer aussi dans l'entreprise, parce que tout le monde en a besoin. C'est pas juste les personnes, je dirais, neuro-différentes, mais
Oui,
tout le
tout à
monde.
fait.
On a besoin d'attention, on a besoin de considération, et je pense que la réussite aussi d'un collectif fait qu'on ne s'intéresse pas uniquement à ceux qui sont issus des mêmes milieux, de la même éducation, du même diplôme, de la même culture, etc. Et que cette richesse inclut bien évidemment la neurodiversité, qui n'est qu'un axe de la biodiversité globale des individus.
Oui, tout à fait. Il faut le revoir aussi dans le contexte global. C'est prendre du
Ouais,
recul. Oui, tout à fait.
complètement.
Merci beaucoup, Jean-Louis. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager, un conseil peut-être pour des personnes qui écoutent, qui se posent des questions, ou des entreprises peut-être sur tous ces sujets-là?
Bah, je dirais que je pense qu'il y a aussi besoin peut-être d'une éducation un petit peu plus fine, au moins de démystifier un peu ces sujets-là, peut-être faire intervenir des spécialistes en entreprise pour ouvrir un petit peu les chakras, à la fois des employés qui savent pas et qui ont peut-être vécu ce type de malaise que moi ou d'autres ont pu vivre dans leur vie personnelle parce qu'ils se sentaient pas comme les autres. C'est effectivement peut-être avoir un support psychologique dans les entreprises, c'est faire intervenir des gens qui savent en parler dans l'entreprise pour faire pénétrer un petit peu ça et que ça n'apparaisse plus comme ça y est, c'est les hauts potentiels qui vont vous expliquer comment ils sont meilleurs. Non,
C'est vrai qu'on entend parfois
je
ça, oui.
suis désolé, mais pour moi c'est pas entendable. Hein, voilà, on a des aptitudes, des attitudes, des compétences différentes, des façons de regarder le monde différentes, des façons peut-être de voir un petit peu plus loin ou un petit peu plus vite que les autres, ok, mais et à chaque fois, combinons un petit peu tous ces talents, toutes ces habiletés et tout ça au profit du collectif.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est une belle conclusion.
Je t'en remercie.
Eh ben, merci beaucoup, Jean-Louis, pour tout
Merci,
ce
Mélanie.
partage. Et ben, du coup, bon, jeune retraité. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.